On ouvre ce magazine comme tous les vendredis avec la revue de presse des hebdos et on retrouve Arlette. Salut Arlette.
Bonjour Léo, bonjour à toutes et à tous.
Ta lecture des hebdos commence toutes les semaines par Télérama.
Oh, c'est purement technique. Je le reçois en premier le mardi, le mercredi c'est le jour du canard et du hain, et je lis les deux derniers le jeudi. Donc, au sommaire de Télérama cette semaine, un prix Nobel, un rappeur et un rocker, sans oublier une pop star, des écrivaines, une émission de radio culte, un cinéaste qui retombe en enfance, une pizza à toutes les sauces, des chapitis pour les chats perdus sans collier et même des influenceurs arnaqueurs. C'est l'inventaire à l'après-vert du Télérama de la semaine. Je retiens surtout ces quelques phrases de Nathalie Krom célébrant Annie Ernaux, le prix Nobel de littérature. Annie Ernaux n'a jamais visé l'aveu, cherchant bien plutôt à atteindre ce qu'elle appelle la valeur collective du « je », J-E. Parler de soi pour tendre aux autres un miroir ou se reconnaître et composer de livre en livre une autobiographie qui se confond avec la vie du lecteur.
Et tu as commencé la lecture du Canard enchaîné par la dernière page.
Parce qu'en dernière page, un article intitulé « Nobel pour aller danser » me permet de faire le lien avec Télérama. Les Nobel, celui d'Annie Ernaux, salué partout, et celui d'Alain Aspect. Plus difficile à commenter, la physique quantique est moins accessible aux journalistes et commentateurs de base. JHTH, je ne sais pas comment il s'appelle, hein, c'est celui qui signe l'article dont je vais vous parler, qui signe donc cet article, s'en tire plutôt pas mal. Je le cite, « Le lauréat a démontré, contre Einstein, qui ne voulait pas le croire, que deux particules pouvaient dépendre l'une de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. » La porte ouverte à la téléportation, en période de pénurie de carburant, voilà un aspect de la découverte qui simplifierait la vie. En attendant, la France peut être fière. Malgré ses coups de pompe, elle est la quatrième nation la mieux pourvue en prix suédois, après les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Le Nobel, de la dopamine pour le moral français ? Les coups de pompe, le canard, les traquent dans toutes ces pages. À la une, les canetons cancanent sur les deux entretiens de Macron accordés à France 2. Faute de pouvoir prendre des bains de fioul. Le titre de l'édito, « Nous entrons dans les heures les plus sobres de notre histoire », prête au président cette fausse phrase sur la grève dans les raffineries. Emtaz analyse les pourquoi, les comment et les effets de cette grève dans le pays, mais aussi sur le gouvernement, qui va devoir régler le problème sans tarder. Ils savent d'expérience que si le conflit venait à s'enliser, que ce soit leur faute ou non, ils seraient dans la foulée, même avec du super sans-plomb, les premiers plombés, c'est la chute de l'édito. Bravo, Emtaz. Les sujets de s'indigner, de s'étonner sont si nombreux que le canard ne sait plus où donner du bec. Les mares et mini-mares puent, le pétrole et le gaz et la poudre avec des échos de la guerre en Ukraine. De quoi nourrir notre anxiété ou votre colère, selon votre humeur.
Le sujet que le 1 creuse cette semaine est depuis longtemps anxiogène, c'est le cancer.
Oui, mais le sous-titre est plutôt plein d'espoir. Tout ce qui a changé. Si Patrice Trappier, dans son Zakouski, rappelle que le cancer est dans un contexte de vieillissement de la population, est en passe de devenir la première cause de mortalité dans le monde. Dans l'entretien, Frédéric Thomas, biologiste, directeur de recherche au CNRS, fait le point sur l'état des recherches générales. Notre boîte à outils est pleine de promesses. Sur le poster, Aline Richard-Zolava, journaliste scientifique, précise que les vaccins curatifs à ARN messager ont un grand avenir. C'est la révolution des immunothérapies. Quant à Marc Billot, un autre biologiste chercheur au CNRS, il constate que le cancer est une maladie qui présente des inégalités à tous les étages. Selon la géographie, c'est la région, par exemple, Hauts-de-France, qui paie le plus lourd tribut au cancer. Selon l'activité professionnelle, comme les agriculteurs avec les pesticides, sans parler de l'amiante et du chlordécone, par exemple, responsable de véritables scandales sanitaires, ce qui l'amène à affirmer que le cancer est politique. Il existe, dit-il, tout un jeu de rapports de force et de tractation entre les pouvoirs publics, les lobbies industriels, voire les médecins et les scientifiques pour aboutir à des réglementations des substances cancérigènes. La mise en place de ces réglementations destinées à protéger les populations exposées prend parfois des retards préoccupants, voire inacceptables, pour des raisons le plus souvent liées à des intérêts économiques.
Mais Arlette Lehin n'a pas fait l'impasse sur le prix Nobel d'Annie Arnault.
Mais bien sûr, évidemment qu'il n'a pas fait l'impasse. Lehin propose son éclairage sur cette écrivaine si singulière dans un numéro spécial intitulé « Annie Arnault, la rage de dire, la foi d'écrire ». C'est une écriture qui vient de loin, qui porte loin, une écriture universelle aussi simple qu'intense qui s'offre à nous comme un cadeau exigeant. Alors vous trouverez ce numéro spécial à 3 euros chez votre marchand de journaux ou en ligne.
Un grand pas de côté qui précède l'actu avec Courrier International qui titre « Chine, l'emprise de Xi Jinping ».
Claire Carrard nous explique dans son édito le choix de la rédaction. À partir du dimanche 16 octobre se tiendra le 20e congrès du Parti communiste chinois. Il se tient tous les 5 ans et celui-ci devrait consacrer la mainmise de Xi Jinping sur le pays en lui accordant un troisième mandat de secrétaire général du PCC. La croissance ralentit. Elle devrait atteindre 3,3% cette année alors que 5% était initialement envisagé. Pour la première fois depuis 30 ans, la croissance économique chinoise sera inférieure à celle des autres pays en développement d'Asie. Les raisons de ce ralentissement ? La bulle de l'immobilier qui a fini par éclater, la stratégie zéro Covid et la multiplication des confinements n'ont pas aidé. À Shanghai comme à Chengdu ou dans le Xinjiang, J'ai pris des cours de chinois exprès, des pénuries de nourriture et de médicaments ont été enregistrées. La vague de chaleur de cet été, qui a provoqué des pénuries d'énergie, perturbé le trafic fluvial et la production industrielle et diminué les rendements agricoles, n'a rien arrangé. Or, la sécurité alimentaire est au cœur des préoccupations du régime de Pékin. Blé, soja, maïs. Malgré son vaste territoire, la Chine est contrainte d'importer massivement en raison notamment de la diminution de sa population rurale. Cela la met à la merci d'une situation géopolitique instable comme la guerre en Ukraine. C'est là tout le paradoxe du pays. Depuis l'apparition du Covid en 2020, la Chine s'est refermée, repliée sur elle-même. C'est à toutes ces questions que le courrier tente de répondre avec un éclairage historique publié dans le FT Chinese sur le débat autour de la politique de la porte fermée sous les dynasties Ming et Qing ou comment comprendre le présent en regardant le passé. Un article dense mais passionnant, je vous l'assure, traduit du chinois. FTChinese.com est le site en chinois lancé par le Financial Times en 2003 à destination du monde économique sinophone. En même temps, la Chine a plus que jamais besoin du reste du monde. Elle achète des terres arables à tout va, partout, explique le Nike Asia, de l'Asie centrale à l'Amérique du Sud en passant par l'Afrique. Elle continue aussi d'investir dans son grand projet des nouvelles routes de la soie.
L'Express consacre aussi sa couverture et son dossier à la Chine.
Ouais, sur sa couverture, la photo de Xi Jinping et le titre « Le grand bond en arrière ». Dans le dossier, 9 articles analysent les raisons de ce déclin et c'est à peu près les mêmes raisons que dans le courrier. Alors, quoi d'autre dans l'Express ? Le prix Nobel de physique, ne boudons pas notre plaisir. La France tient depuis le 4 octobre son 15e prix Nobel de physique en la personne d'Alain Aspect, dont les travaux dans le domaine quantique servent aujourd'hui de base pour le développement de l'ordinateur ou la cryptographie du futur. Et de littérature. Annie Arnault, prix Nobel de littérature, une femme et une nation à l'honneur. La lauréate renforce le camp déprimé devant les États-Unis. L'Express souligne l'honneur fait à la France plutôt qu'au lauréat. Je ne sais pas si tu as remarqué.
Mais c'est vrai, ça.
Bon, enfin, bref, rien que de très normal chez eux. Ah, plus original, Éric Scholl, dans sa chronique Opinion, raconte qu'à Châteaudun, la création d'une maison des brocanteurs dans une ancienne église peut réveiller le centre-ville. Le maire de la ville compte sur le capital médiatique de Julien Cohen, initiateur de ce projet, ancien pilier de l'émission Affaires conclues, pour attirer les futurs acheteurs et vendeurs. Ah, un petit article virulent sur Docteur Sandrine et Miss Rousseau ou la naissance d'un petit fascisme postmoderne, signé du chroniqueur Sylvain Fort. Et puis encore, décidément l'Express déteste vraiment Rousseau. Sandrine nous piège. Chez les écolos, l'affaire Bayou devient l'affaire Rousseau. L'écologiste et ses méthodes explosives angoissent les écolos et agacent la NUPES, au point que certains réfléchissent à deux fois avant de lui apporter la contradiction. C'est signé Olivier Perroux. Mais il y a une autre femme dans le collimateur de l'Express, Liz Truss. Deux articles pas très tendres lui sont consacrés. La chute sans fin du Royaume-Uni pour le premier et Royaume-Uni, Liz Truss, dangereuse magicienne de l'économie par Nicolas Bouzou pour le second. Allez, assez de méchanceté.
Et sourions avec Rob Bresny. Son horoscope de la semaine est dédié à ceux qui sont nés sous le signe de la Balance.
Lorsqu'il était jeune, le poète Balance, W.S. Merwin, avait un professeur qui lui donna un jour ce conseil. Ne perds pas tout de suite ton arrogance. Tu le feras quand tu seras plus âgé. Si tu la perds trop tôt, tu risques de la remplacer par de la vanité. Je crois qu'il serait sage que tu médites ce conseil dès à présent. Voici comment je l'interprète. Honore et respecte tes magnifiques capacités. Salue et cultive tes talents mûrs. Parle-toi avec réalisme des succès que tu as remportés. Si tu renforces ton appréciation de ce qui est légitimement admirable chez toi, tu ne seras pas tenté de recourir à une fierté mal fondée ou à un égotisme nombriliste.
Campus Bordeaux.